Eh bien, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Ça va? Oui, je ne sais pas si le son est tout à fait la même chose que les autres jours. Nous avons eu quelques problèmes de sono. Ce n'est pas des problèmes de sono, c'est des problèmes de sonorisateurs. Ils sont tous loin aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Je vais faire une lecture dans 1 Samuel 16, verset 7. Voilà ce que je lis. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Quand j'étais tout petit, je devais avoir l'âge de Timothée, à peu près 4-5 ans. Mes parents, mon frère et moi, on vivait à Lausanne, à la rue du Mont-Tendre. J'y suis retourné, ça fait tout drôle de retourner dans des endroits comme ça. On a quitté cet endroit, je devais avoir 7 ans pour aller dans le village de Chèbre. Et là, dans la rue du Mont-Tendre, il y avait une maison à côté de la nôtre où habitait une vieille dame. Ce n'était pas Miss Felicity Gray, non. C'était une vieille dame qui s'appelait Madame Tabor. Elle était veuve. Et je me souviens très très bien d'elle. Elle vivait toute seule dans son appartement avec des tas de souvenirs. Il y avait même une urne. Et je me rappelle, j'avais dit à ma mère, oh là là, c'est triste, Madame Tabor, elle a son mari dans une boîte sur la commode. Je crois que je vais me marier avec elle parce qu'elle est triste avec son mari tout dans une boîte. J'étais tout petit. Et Madame Tabor était une femme fantastique et je me rappelle, j'allais souvent lui faire une visite. Et un jour, ma mère a eu la peur de sa vie parce que Madame Tabor m'avait emmené avec elle faire des commissions, comme on dit en Suisse. On avait été faire des courses et ma mère n'était pas au courant. Donc, passé midi, tout d'un coup, je n'étais pas rentré. Alors, elle est sortie dans la rue, elle m'appelait partout, elle était inquiète. Et puis, tout d'un coup, elle m'a vu à l'autre bout de la rue arriver en tenant, je tenais la main de Madame Tabor. Et pauvre Madame Tabor, elle s'est fait copieusement guirlander par ma mère. Et vous savez, quand ma mère guirlandait quelqu'un, c'était terrible. Cette Madame Tabor, elle avait un cœur formidable, mais c'est vrai qu'elle n'était pas parfaite, elle avait oublié de dire à ma mère. Et je me rappelle toujours de ce jour-là, elle m'avait offert un crocodile taille crayon. Vous voyez, mais vous rendez compte, j'ai des souvenirs de loin, hein, je vais avoir 4 ans à peu près. Un taille crayon crocodile, le dessus était vert, le dessous était jaune, mais il était grand comme ça, il devait bien faire 20 cm ce truc-là. Je me rappelle, on enfilait le crayon dans le derrière du crocodile. C'était génial et c'était super. Alors évidemment, je retournais toujours voir Madame Tabor avec la permission de ma maman, mais elle avait reçu l'ordre impératif de ne plus m'emmener faire les commissions, c'est-à-dire faire les courses. En Suisse, on dit faire les commissions. Chez Madame Tabor, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'était un fourbi fantastique. Et il y avait une cage avec trois canaris. Je ne vous ai jamais parlé des trois canaris de Madame Tabor. Ça, c'est bizarre, mais je vais vous en parler ce soir. Les trois canaris de Madame Tabor, il y en avait deux qui était parfaitement jaune, et puis il y en avait un qui avait des taches grises sur les ailes. Et alors elle m'a dit de sa voix tremblante un jour, celui-là, c'est pas le plus beau, mais c'est celui qui chante le mieux. Bon, j'ai jamais entendu chanter son canari, mais enfin bon, elle disait ça, que c'était celui qui chantait le mieux. En fait, Madame Tabor, en y réfléchissant maintenant, je trouve qu'elle ressemblait un petit peu à son canari aux ailes tachées de gris, parce que son apparence n'était pas extraordinaire, elle n'était pas parfaite, hein, comme je vous l'ai dit, elle m'emmenait faire les commissions sans avertir ma mère. Et puis, elle n'était pas très belle, elle était âgée, elle était un peu voûtée. Et puis, elle sentait la naphtaline. Vous vous rappelez de cette odeur de la naphtaline? On mettait des boules de naphtaline dans les armoires pour faire partir les mites. Les mites, ça existe encore, ces trucs-là? Ça existe encore. Alors, chérie, il ne faut pas mettre de la naphtaline, c'est horrible. On a d'autres choses maintenant, hein, quand même, la naphtaline. Alors, elle empestait la naphtaline. Mais bon, elle savait raconter des histoires. Alors, pour moi, c'était formidable. Et puis, elle m'apprenait des vieilles chansons, des chansons qu'on n'entend plus. J'ai même essayé de retrouver sur Internet. Et ben, elles étaient tellement vieilles, ces chansons, que même celles-là, on ne les retrouve plus. Il y en avait une qui s'appelait Charmante Sylvie. C'était Charmante Sylvie, dès le point du jour. C'est tout ce que je me rappelle, Charmante Sylvie. Donc, ces histoires et ces chansonnettes, j'étais complètement hypnotisé par ça. Elles m'ouvraient l'esprit à toutes sortes de mondes merveilleux. C'est pas que ma mère ne me racontait pas d'histoires, mais Madame Tabor, elle les racontait mieux. Voilà. Et puis, frères et sœurs, En pensant à Mme Tabor, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous prêche là ce soir? Eh bien, c'est parce que je m'aperçois que le monde est plein de canaris jaunes avec du gris sur les ailes. Il y a plein de jeunes gens qui ne savent pas qui ils sont, ni ce qu'ils peuvent être, ni même ce qu'ils pourraient devenir. Et ce qu'ils veulent, c'est être quelqu'un, mais bon, ils ne pas trop bien. Et puis, il y a beaucoup de personnes courbées par l'âge, qui sont écrasées par les soucis, qui sont tenaillées par le doute, et même, ils ont une existence qui est bien en deçà de ce qu'elle aurait pu être, de leur capacité. Et mes frères et sœurs, je crois que pour vivre pleinement, on a quelque chose à acquérir, absolument. Nous devons acquérir la capacité d'affronter les ennuis avec courage, les ennuis, les déceptions avec bonne humeur, et puis d'arriver à accepter et à vivre les triomphes avec humilité. Vous voyez, tout ça, on en est tous là, hein, on est tous des canaris, mais bon, on a tous un peu des taches grises, vous pensez pas, sur les ailes. Mais comment arriver à acquérir tout ça? Ben, je crois, en fin de compte, que c'est en croyant réellement que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, que nous pouvons arriver à acquérir ces choses dont nous avons besoin. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, mes frères et sœurs. Pensez-y, nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Franchement, personne ne peut avoir cette conviction profonde sans éprouver un sentiment tout neuf et un sentiment excitant d'avoir une grande force et de grands pouvoirs, si vraiment nous sommes créés à l'image de Dieu. Et alors, dans ce monde, eh bien, il y a une grande tromperie, c'est que la force morale, elle paraît souvent secondaire face par rapport à la beauté physique et au charme que peuvent avoir certaines personnes. Écoutez pourtant ce conseil qui vient de milliers d'années en arrière, qui a été donné par le prophète Samuel. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est important. Regardez comment Jésus a choisi Pierre. Hein, il cherchait un homme de foi, ben, il n'a pas été le chercher dans une synagogue, il l'a appelé alors qu'il était en train de pêcher des poissons. Et Simon, c'était vraiment le roi des sceptiques, c'était le roi de l'impulsion, c'est un impulsif, c'était un sentimental, c'était un type sans instruction. Et ben, c'est lui qui a été choisi pour devenir l'apôtre de la foi active. Vous voyez Jésus, hein, il regarde au cœur. Simon, c'était un canari jaune avec des ailes tachetées de gris. Voilà ce que c'était, Simon. Et puis, ce Simon-là, il a réussi à acquérir la confiance totale et l'amour inconditionnel et permanent de Jésus-Christ, malgré le fait qu'il ait été un canari jaune avec des taches sur les ailes. Il n'était pas parfait. Saül est devenu Paul. Saül, l'adversaire, est devenu Paul, le prédicateur. Et Jésus choisit toujours des gens comme ça. Il choisit des gens imparfaits pour montrer le chemin de la perfection. Ça, c'est la façon de Jésus, parce que Jésus regarde les cœurs. Il n'a pas changé. Et ce qu'il faisait autrefois, il le fait aujourd'hui comme autrefois. Il choisit jamais autre chose que des canaris jaunes avec des taches grises sur les ailes. Les canaris de Madame Tabor. Le canari de Madame Tabor. Alors le Seigneur, il nous appelle, toi et moi, à le servir ici-bas, malgré nos tâches, malgré nos trucs, nos machins. Il nous appelle à le servir, à chanter notre chanson et puis à raconter les plus belles histoires qui existent. Les histoires de Jésus, les histoires des apôtres, les histoires des prophètes. Raconter le mieux possible. Voilà à quoi il nous appelle. Alors, on s'engage, nous nous engageons. Et s'il arrive que dans le combat on trébuche, eh bien mes frères et sœurs, nous pouvons aller le prier. Et la meilleure façon de le prier, c'est de lui dire, ô Seigneur, ô Dieu, grand façonneur d'hommes, aie pitié, change-moi, aide-moi à sortir de ces ténèbres. Ne tiens pas compte de mes tâches, ne tiens pas compte de mes fautes. Parce que si on commence à compter et puis à croire que Dieu compte ça, ben, mes pauvres enfants, on est foutus. Et Jésus, comme il faisait lui, eh ben, il nous demande de le faire aussi. C'est-à-dire, il nous demande de nous mêler à tous ces gens qui sont tachés, à tous ces gens qui ont des taches grises sur leurs ailes. Et qui disent, oh, ça sert à rien que je vole, je ne suis pas beau, ah, ça sert à rien que je vole, je ne suis pas parfait. Ces pauvres, ces méprisés, ces opprimés, ces affligés, tous ces gens, c'est vers eux que Jésus nous envoie premièrement. Et puis nous sommes envoyés pour leur chanter notre chanson. Nous sommes envoyés pour leur dire nos belles histoires, comme Madame Tabor, qui racontait des belles histoires. Mais nous, nos belles histoires, elles sont vraies. Amen, elles sont vraies. Dieu nous a beaucoup donné, mes frères et sœurs, mais est-ce qu'on a appris ce qu'il nous a donné? C'est ça qu'il faut réaliser dans notre vie. C'est qu'il nous a donné, mais est-ce qu'on a appris ce qu'il nous a donné? Pourquoi se plaindre des taches grises sur nos ailes? Pourquoi se plaindre d'être ce que nous sommes? Nous sommes ce que nous sommes. Choisissez le bien, c'est le seul moyen de parvenir à un bonheur durable. Choisissez le bien. Avec Jésus, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas besoin de dépasser l'un ou de dépasser l'autre. Il suffit d'être soi-même, de le savoir, de savoir que nous sommes nous avec nos difficultés, bien sûr, mais il n'y a pas de compétition. On a tous le même droit de porter l'image de notre Seigneur sur nous-mêmes. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a que Jésus qui n'a pas de tache grise sur les ailes. Il n'y a que Jésus qui n'a pas de tache grise. Nous, nous ne sommes pas parfaits. Mais notre chant est bon. Et nos histoires sont vraies. Amen. C'est ça qui est important. Alors nous ne devons pas arrêter d'être des témoins parce que nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne devons pas arrêter quelqu'un parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il a des taches grises. Non, on ne doit pas l'arrêter. On doit l'encourager au contraire. Ne faites pas de complexe à cause de vos imperfections. Et si vous êtes parfait, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont parfaits, mais ne jugez pas ceux qui ont des taches grises sur leurs ailes. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Mes frères et sœurs, on est habité par le Saint-Esprit. On est habité par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous conduit à aimer. Premièrement, c'est à aimer Dieu, à nous aimer nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, hein. À aimer Dieu, à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres, à aimer toute la création, tout ce que Dieu a créé. Et notre façon d'agir, eh bien, elle a des conséquences. Et les conséquences peuvent ne pas être immédiates, mais elles arrivent toujours. Elles suivent toujours. Les conséquences suivent toujours. Et nous sommes dans un monde perdu. Nous sommes dans un monde perdu, mais nous, nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes plus perdus. Nous étions perdus, mais nous ne sommes plus perdus. Nous vivions comme le monde, mais nous ne vivons plus comme le monde. Ici-bas, le monde entier est géré par la connaissance du bien et du mal. Nous étions de leur nombre, nous ne sommes plus de ce nombre. Nous ne sommes plus gérés par la connaissance du bien et du mal. Nous sommes gérés par le Saint-Esprit qui est en nous. Est-ce qu'il est en vous?
Oui.
C'est ça qui est important. Les gens perdus sont constamment placés devant le choix du bien et du mal. Les pauvres. Et il y a des oppositions en toutes choses, et même pour nous, parce qu'on est encore dans ce monde. Mais comme on n'est pas du monde, on n'a pas à gérer ces oppositions, la même chose qu'eux. Eux, il y a des oppositions en toutes choses pour qu'ils puissent voir la différence entre le bien et le mal. Pas nous. Ça leur permet de choisir entre le bien et le mal. Pas nous. C'est pas la même chose pour nous. Parce qu'un jour, nous avons choisi le souverain bien, Jésus. Et nous, depuis que nous avons choisi le souverain bien, Jésus, nous n'avons plus le choix entre le bien et le mal. C'est plus que le bien qui est notre vie. On n'a plus le choix. Et de notre bon berger, de notre maître, nous apprenons ce qu'est le bien parfait. Et nous le faisons. Nous apprenons. Nous apprenons de notre souverain bien, de Jésus, ce qu'il est, ce que nous sommes et ce qu'il attend de nous. Et nous croyons tout ça, tout ce que nous apprenons, tout ce qu'il nous donne, nous le prenons et nous apprenons et nous croyons ces choses et nous agissons sans murmurer, sans hésiter. C'est lui notre maître. Nous ne sommes pas notre propre maître à choisir entre le bien et le mal. C'est lui notre maître. Dans ce monde perdu, on est éprouvé, on est tenté, mais nous savons, parce que nous avons appris de lui, nous savons que ces épreuves et ces tentations ne seront jamais au-delà de nos forces. En fait, nous savons qu'elles servent à quelque chose, ces choses-là, ces épreuves et ces tentations. Parce que nous sommes dans ce monde, Dieu ne veut pas nous différencier des gens de ce monde en nous enlevant les épreuves et les difficultés. Il nous permet de les avoir, mais d'en tirer autre chose que simplement le choix de nous laisser crouler ou le choix de vaincre ces difficultés. Non, ces difficultés, elles nous apprennent à trouver le moyen d'en sortir que Dieu a préparé à l'avance. Tout revient à Dieu. Tout mène à Dieu. Tout mène à mieux connaître Dieu. Tout mène à mieux connaître la volonté de Dieu. Pas simplement ça c'est bien, ça c'est pas bien. Notre vie ici-bas nous est donnée pour que nous apprenions ces choses parce qu'elles nous serviront dans le monde futur. Dieu nous a embauchés pour créer dans l'avenir. Lorsque cette vieille terre sera détruite, roulée comme un vieux manteau, il en créera d'autres. Nous serons là avec lui pour gérer tout cela. Et ces oppositions actuelles entre le bien et le mal, entre les épreuves et les moments de tranquillité, entre la santé et les moments de maladie, entre l'aisance et les moments de disette, de pauvreté même, eh bien tout ça, ça forme notre caractère. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour mettre en jeu, en péril, notre position de sauver. C'est pas ça. C'est juste pour nous apprendre à acquérir un caractère, le caractère que nous aurons, dont nous aurons besoin dans le monde futur. Alors n'oubliez pas, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne réagissons pas aux oppositions comme les perdus réagissent aux oppositions. Les perdus réagissent aux oppositions par l'analyse du bien et du mal, avec la connaissance du bien et du mal. Nous agissons, nous, en ayant un maître à qui nous obéissons de cœur. C'est tout à fait autre chose. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est tout ça, c'est rien que ça la différence. Mais c'est toute la différence. Nous avons la crainte de Dieu et nous obéissons de cœur. Non pas parce que c'est bien ou parce que c'est mal. Tout change. Un maître, nous l'avons, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui nous apprenons en vue de développer une beauté de cœur, parce que c'est ça qui regarde, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est la beauté de notre cœur qui regarde. Souvenez-vous, avant la chute, j'ai juste un petit tableau, hein, c'était le temps de la dispensation de l'innocence, et ça a changé. Est-ce que Dieu a changé? Non, c'est les temps qui ont changé. Il y a eu la chute, et dans cette histoire est apparue une malédiction, la connaissance du bien et du mal. C'était une malédiction. Et puis ensuite, pour renforcer ça, pour bien montrer à l'homme et à la femme qu'ils ne pouvaient rien sans Dieu, il a en plus mis une loi, la loi de Moïse. Et puis finalement, la grâce, elle est arrivée par Jésus. Donc c'est un temps différent. Mais est-ce que Dieu change? Non. C'est les temps qui changent. Il faut marcher dans votre temps. Avant Adam, il n'y avait pas de libre arbitre. Jusqu'au moment où il y a eu un commandement, tu ne mangeras pas de l'arbre. Alors là, il y a eu un choix à faire. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment le libre arbitre? Non, mes frères et sœurs, ils n'avaient pas. Ève et Adam n'ont pas pu faire autrement que d'en manger. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu se manifeste comme sauveur. Et pour pouvoir se manifester comme sauveur, il fallait qu'il y ait des gens perdus, qu'il puisse sauver. C'est énorme de penser une chose comme ça. Mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Ça faisait partie du plan. Pensez à ça, Pierre. Est-ce qu'il pouvait échapper au fait de renier Jésus avant le chant du coq? Non. C'était dans le plan. Jésus lui a dévoilé le plan. Pierre aurait pu dire, bon, ben, je vais faire gaffe. Ben non, il pouvait, même en faisant attention, il ne pouvait pas faire autrement que de rentrer dans ce plan. Est-ce qu'il y avait le libre arbitre? Non. Judas, est-ce qu'il pouvait ne pas trahir Jésus? Non. Quand il a reçu les 30 deniers, il aurait pu se dire, waouh, mais attends, c'est une prophétie en train de s'accomplir. Non, non, je vous rends vos 30 deniers et je ne vous le livre pas. Non, non, il n'a pas pu s'empêcher. Il devait faire ce qu'il devait faire. Pensez à toutes ces choses et arrêtez de vous attrister à cause de vos taches grises sur vos ailes. Arrêtez de vous humilier sans arrêt, d'être malheureux et inactif parce que vous n'êtes pas sans tâche, parce qu'il vous semble que « Ah, mais Jésus aurait dû enlever tout ça de mon cœur. Comment ça se fait que j'ai encore des tâches ?» Contentez-vous d'être la personne que vous êtes et apprenez de lui, mes frères et sœurs. Et faites ce pourquoi vous êtes venus sur cette terre. Apprenez qui vous êtes et manifestez-vous. Apprenez. Pas par rapport à la connaissance du bien et du mal, mais par rapport à la connaissance que vous avez de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Apprenez à connaître Dieu et vous allez vous connaître. Pensez-y. Autrefois, manger du porc, c'était achtu. C'était péché. Pas glop. Et puis Dieu a abrogé ce commandement sans être changeant lui-même. Dieu n'a pas changé. Il a changé le commandement sans être inconstant. Dieu n'est pas inconstant. Réfléchissez à ça. Ça va vous montrer sa vraie nature, mais il faut réfléchir. Je ne vais pas tout vous mâcher. Réfléchissez, méditez, pensez-y. Ça va vous montrer sa nature et alors aussi votre nature, puisque vous êtes créé à l'image de Dieu. Pensez à ça. Il a donné un commandement à Abraham de tuer son fils. Et lorsqu'Abraham est sur le point de le faire, Dieu dit « N'avance pas la main sur ton fils ». Et voilà qu'Abraham, qui était en train d'obéir au premier commandement, a dû désobéir au premier commandement pour obéir au deuxième commandement. Est-ce que Dieu change ? Non, mais les commandements peuvent changer. Les obligations peuvent changer. Les ordonnances peuvent changer. Tenez-vous au courant de ce que Dieu veut aujourd'hui. Apprenez. Ne restez pas bloqués au 15e siècle, ni même au 20e siècle. L'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, elle est progressive. Elle change d'apparence, mais jamais de principe. Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est rien l'apparence. Ça change d'apparence, mais les principes sont toujours là. La vérité sur laquelle repose l'œuvre de Dieu, elle est éternelle. Elle est inaltérable. Mais il y a de nombreuses règles qui changent, de nouvelles pratiques qui sont révélées. Sans arrêt, c'est en évolution. Et sans arrêt, ça change avec l'évolution de l'œuvre de Dieu. Pas avec l'évolution de Dieu. Avec l'évolution de son œuvre, de ce qu'il fait, de ce qu'il attend de nous dans cette génération. L'œuvre de Dieu, elle va aller en avant de toute façon. Mais est-ce que vous allez l'accompagner ? Est-ce que vous accompagnerez l'œuvre de Dieu ? Vous dites, je vais accompagner Dieu, je marcherai avec toi. Oui, mais attention, il travaille. Et les choses changent avec lui. L'apparence, c'est rien, c'est le cœur que Dieu regarde. Et c'est aussi ça que vous devez regarder, le cœur, le centre, ce qui est là maintenant. Ce qui est l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Alors il faut être alerte, il faut être souple et il faut être agissant. Sinon on reste bloqué et on fait une religion. Oui, mais moi j'ai dit, j'ai entendu que, oui bon, l'apôtre Pierre aussi a contesté. Mais enfin, moi, jamais rien d'impur est rentré. Arrête de dire que c'est impur si je dis que c'est pur. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles ou est-ce que c'est pas un démon qui parle là? Ah, c'est peut-être démoniaque, c'est peut-être une doctrine de démon. Voilà, et hop, ça y est, on rentre dans la religion. Ah, oui, c'est sûrement des démons, il y a des taches grises, hein, d'abord, hein, il y a des taches grises sur ses ailes. Alors ne vous laissez pas impressionner ni par vos taches sur vos ailes, ni par les taches grises sur les ailes des autres. Envolez-vous en faisant l'œuvre de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et j'espère que mes frères et sœurs ont bien compris. Je vous demande de les aider s'ils n'ont pas bien compris en réécoutant ce message sur Révélation Bible pour bien comprendre quelle est ta pensée aujourd'hui et que nous puissions marcher en faisant des progrès avec toi, en te suivant là où tu vas. Aller là où tu vas, faire ce que tu veux, même si cela semble étrange au monde, nous voulons faire ta volonté, Père, et cela avec tout notre cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'appuie sur le bouton rouge, je peux. Excusez-moi, là, je vous ai dans l'intimité. J'appuie sur le bouton rouge. Au revoir. J'appuie sur le bouton rouge. Au revoir.